Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Et
bonjour.
Guillaume Roquette du Figaro, bien sûr. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume, alors cette émission est en direct et vous pouvez toujours interpeller notre invité sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et vos questions lui seront posées en fin d'émission dans Questions Net. Alors Adrien Quatennens, à la France Insoumise, il y a un ténor. Jean-Luc Mélenchon, dont la voix porte incontestablement. Elle est le bruit et la fureur, a-t-il dit lui-même il y a quelques années. La fureur, une colère violente, nous dit le Larousse, et donc par définition, qui peut porter en elle ses excès. Mais derrière ce leader, il y a vous, son numéro 2, son fils spirituel, dit-on, et qui sait, son possible successeur. Pour autant, vous n'avez pas adopté le même ton que votre mentor, votre manière peut-être aussi discrète de vous en affranchir un peu. Quand lui est allegro, vous apparaissez en moderato. Une mission de modérateur, pas si facile dans un mouvement politique parcouru par des opinions différentes, voire divergentes. Vous le revendiquez, l'assumez, mais quand il s'agit de la question de la laïcité, eh bien cette profusion peut se muer en confusion. Nous y reviendrons dans cette émission quand nous évoquerons la loi contre le séparatisme voulue par le gouvernement. Mais nous commençons tout de suite par l'actualité de la semaine. Les violences policières et la mobilisation hier partout en France contre le projet de loi sécurité globale. Guillaume Roquette.
Oui, il y avait du monde dans la rue hier. Vous y étiez d'ailleurs, Adrien Quatennens, vous-même, vous manifestiez. Et pourtant, un sondage, Harris Interactive pour LCI, nous dit que près de 6 Français sur 10, 59% exactement, soutient cette loi, et notamment l'article 24 qui est controversé. Alors, est-ce que ça veut dire que votre mouvement de contestation de cette loi, il est fort, mais il est quand même minoritaire ?
Bonjour, je ne crois pas. J'ai vu dans la semaine d'autres sondages sur cet article 24 et sur cette loi sécurité globale. Disons une chose. Cette loi sécurité globale ne va rien améliorer de la sûreté collective des Françaises et des Français. Absolument rien. C'est une loi de conflictualisation, là où de mon point de vue, il faudrait des lois de désescalade. Regardez par exemple ce que font nos voisins allemands en matière de maintien de l'ordre, y compris dans les manifestations. Ils agissent sans LBD, sans grenades de désencerclement. Ils sont aussi désarmés que possible et veillent plutôt à réduire les conflits.
Mais il y a autant de violence face à eux dans les manifestations en Allemagne ?
Écoutez, allez voir un peu en Allemagne, certains groupes ultra-violents, vous verrez comme quoi il y a d'autres techniques qui permettent de faire face à ce genre de situation. D'ailleurs, je veux rappeler, vous me le permettez, qu'hier, avant les quelques incidents qu'on a vus et qui ne sont absolument pas, et je pense que vous pourriez en convenir, représentatifs de la manifestation, on a d'abord vu une manifestation et des manifestations, parce qu'il y en avait dans tout le pays, que moi j'appelle de salubrité publique. C'était un sursaut démocratique. Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées pour rappeler que la première des sécurités, c'est la liberté. Mais je veux vous répondre sur la loi de sécurité globale, parce que si le sondage est ce que vous indiquez, il nous reste donc une marge pour convaincre quelques personnes. Je crois qu'elle mérite d'être contestée. C'est une loi qui, en dehors de l'article 24, procède à une vision de la police qui ne correspond pas, de mon point de vue, aux objectifs que nous devrions lui donner. C'est une loi qui transfère des missions de sécurité à des officines privées. C'est une loi qui transfère des compétences de la police nationale à des polices municipales. Sauf que la police municipale dépend des moyens des exécutifs locaux. On risque d'avoir donc une inégalité criante. C'est une loi qui gadgetise la police avec le recours accru aux drones, à la reconnaissance faciale, aux caméras piétons embarquées. En revanche, c'est une loi qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire, et j'y viendrai après, c'est-à-dire refondre la police républicaine.
Vous parliez des violences. Vous parliez des violences.
J'ai pas parlé de l'article 24.
On va y revenir.
On va prendre le temps. Mais hier, donc, un policier a été passé à tabac en marge de la manifestation. Je dis bien en marge de la manifestation.
Vous faites
de
bien
la marge
de le dire.
Des libertés. Est-ce que vous dites l'agression de Michel Zecler, ce producteur de musique qui a choqué à peu près tout le monde, par des policiers tout aussi indigne que le déchaînement de haine contre les forces de l'ordre, comme a pu le dire par exemple Richard Ferrand?
Il y a une chose qui est claire, que ce soit Michel Zecler qui soit passé à tabac par des policiers ou que ce soit un policier passé à tabac, dans les deux cas, mon indignation est totale. Et je n'hiérarchise pas les choses. À ceci près quand même, il faut le dire, que dans le cas des violents qui s'en prennent aux policiers, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Alors que les policiers, eux, nous représentent tous, puisqu'ils sont les dépositaires de l'autorité publique, et ils sont ceux qui ont le monopole de la violence légitime de l'État.
Donc, que c'est plus grave dans un cas que dans l'autre?
Absolument pas. Simplement, je vous dis que quand c'est la police qui agit, la police républicaine, elle agit en notre nom à toutes et tous.
Mais c'est la police, donc, ou c'est des policiers? Est-ce que ces policiers qui tabassent le producteur, ils sont représentatifs de leur corporation?
Soyons très clairs, Guillaume Roquette. Dire qu'il y a des violences policières, parce qu'il y a des violences policières, ne veut pas dire que tous les policiers soient des violents. Que ce soit entendu. Et moi, je crois qu'une majorité de policiers dans ce pays restent des policiers républicains, attachés à ce que cela veut dire et à l'idée de gardien de la paix. Pour autant, disons les choses, et disons-les franchement. Il y a encore quelques mois, quand nous parlions de violences policières, nous étions bien seuls. Et M. Darmanin nous refusait les mots, lui qui maintenant veut nous refuser les images. Quand Jean-Luc Mélenchon avait parlé de barbares s'agissant de pratiques précises, vous étiez tous sortis du bois en disant « Oh là, c'est
tous
terrible !»
Non, à l'époque,
non, il ne parlait pas de tous les policiers.
C'est ce qu'il avait dit, c'était bien la controverse.
Non, c'était la controverse, c'était simplement sur ce terme, suite à des violences, notamment celle des Gilets jaunes. Et ensuite, vous avez même vu qu'un syndicat de police est venu manifester sous les fenêtres de la France insoumise. Est-ce que les mêmes syndicats de police ont désormais l'intention d'aller manifester sous les fenêtres de La République En Marche? Parce que vous avez vu que M. Fauvergue, qui est le rapporteur de la loi Sécurité Globale, il a parlé, s'agissant de l'agression abjecte, raciste, de Michel le producteur, de barbare en uniforme. Alors lui, il aurait le droit de le dire, mais pas Jean-Luc Mélenchon.
Mais quand tu parles
donc,
Jean-Luc
attendez,
Mélenchon.
Je finis de répondre à Guillaume Roquette, si vous le voulez bien. Donc, il y a, dans les rangs de la police républicaine, des individus violents, racistes, qui n'ont rien à y faire. Qui, sans doute, ne sont pas représentatifs de la police dans son ensemble, mais qui n'ont rien à y faire. Et pour le reste, et j'aimerais que mon message soit entendu, je crois que les policiers républicains de ce pays, plutôt que d'intérioriser l'idée qu'il y aurait d'un côté les gentils avec la police et de l'autre les anti-flics, devraient nous écouter un peu. Nous ne sommes pas et n'avons jamais été anti-flics.
Adrien Quatennens,
nous voulons refondre la police républicaine. Alors, juste, il faut en recruter davantage. Il faut accroître leur formation. Il faut un retour à la police de proximité.
C'est une émission où on pose des questions. Donc
mais
je vais vous les poser
et
après on va revenir sur le fond. Mais une question, puisque hier Jean-Luc Mélenchon a déclaré que parmi les manifestants, les violents sont très peu nombreux et curieusement jamais interpellés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez que le préfet de police de Paris orchestre la violence, qu'il la laisse se dérouler?
Ça veut dire en tout cas que la question mérite d'être posée, y compris de la responsabilité de la hiérarchie et des donneurs d'ordre, Benjamin Sportouche. Parce que, pardon, mais encore une fois, ce qui se passe hier soir, c'est que quand les centaines de milliers de manifestants qui ont participé, c'était des manifestations calmes, tranquilles, déterminées, bon enfant, jeunes, et c'est intéressant de le voir, regardez ces images-là. Et quand les gens rentrent chez eux, qu'ils allument la télé, et qu'ils voient le traitement médiatique de la journée qu'ils ont vécu, ils voient apparaître à la télévision quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils ont vécu. Donc je pose la question, comment se fait-il que quelques dizaines de violents, car nous sommes opposés à l'usage de la violence en politique. D'ailleurs, vous avez vu la réaction des manifestants quand les violences ont démarré à la fin de la manifestation.
Ils ont hué.
Les manifestants étaient très hostiles à ces actions, parce qu'on sait très bien ce qui se passe ensuite, et on connaît le traitement médiatique.
Mais qu'est-ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon quand il dit ça?
On pose la question de savoir comment se fait-il que la police, avec les moyens dont elle dispose pour encadrer des manifestations, soit incapable de mettre fin rapidement à la capacité de quelques dizaines d'individus à nuire à l'ensemble d'une manifestation.
Adrien Quatennens, vous sous-entendez plus que ça. Vous sous-entendez que le préfet l'Allemand laisse la violence volontairement se diffuser en fin de manifestation. Vous demandez déjà la démission du préfet de police, mais est-ce que vous estimez aussi que c'est la position du ministère de l'Intérieur, que c'est le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui laisse faire?
Amélie Carouer, je crois que dans le cas de ce que nous avons vu cette semaine, notamment Place de la République lundi, au moment où les réfugiés et les associations occupaient symboliquement une place, je crois que la responsabilité qui est la première engagée, au-delà des violences qui ont été commises sur place, qui sont d'ailleurs insupportables, où on a vu ces policiers prendre des tentes comme de vulgaires sacs à pommes de terre pour en retirer des réfugiés qui s'y trouvaient, on a vu des croche-pieds gratuits, mais il est clair que dans les actions de cette soirée-là, la responsabilité politique est engagée du préfet l'Allemand et de M. Darmanin.
Vous demandez aussi la démission de Gérald Darmanin.
Je demande la démission ou le limogeage du préfet l'Allemand, qui a en plus pour lui le bilan du traitement des Gilets jaunes, avec 32 personnes éborgnées dont on n'a toujours pas retrouvé la trace, avec cette mascarade qui est devenue l'IGPN, dans laquelle des policiers décident entre eux du sort de policiers. Nous aurions besoin d'une instance démocratique, dans laquelle des policiers seraient représentés, mais aussi des magistrats, des citoyens. Voilà ce que je veux dire.
Mais
donc,
c'est
oui,
en cours. Il y a des chantiers qui sont en cours. On nous le dit, que ce sont des sources concordantes, que parmi les chantiers figure la réforme de l'IGPN, donc la police des policiers dont vous parlez, mais aussi sur la formation, la lutte contre les discriminations. C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron dans un message. Il a condamné l'agression inacceptable du producteur Michel Zecler. Je le cite, des images qui nous font honte. ça va dans le bon sens tout cela pour vous,
Benjamin Sportouche,
Adrien Quatennens.
Dans une semaine comme celle-là, où on vote à l'Assemblée nationale, moi j'ai voté contre, mais où on vote la loi de sécurité globale, qui veut notamment amoindrir la capacité à diffuser des images dont on vérifie la même semaine à quel point elles sont indispensables. Parce que l'action des forces de police est par définition à caractère public. Et il est normal qu'il y ait un contrôle citoyen de l'action de celles et ceux qui ont le monopole de la violence légitime de l'État. Et donc j'aimerais que le président de la République, qui réagit au moment où la France est montrée du doigt par des organisations internationales comme l'ONU, où plus d'une centaine d'associations de défense des droits humains montrent la France pour ce texte du doigt, le président de la République fait quoi ? Un post Facebook ? Alors, permettez-moi un instant de vous dire que cet article 24, il faut le retirer. Parce que quand il y a des menaces contre des policiers, c'est insupportable. Moi, je n'oublie pas que 150 policiers, depuis le début de ce quinquennat, se sont suicidés. Et je veux répondre, y compris à cette souffrance. Oui. Je voudrais terminer un instant, parce que sinon, je n'ai pas le temps de faire quelques propositions sur la manière dont on voudrait agir.
Mais oui, et juste pardon sur l'article 24, pourquoi ne pas laisser faire le travail parlementaire ? Vous dites qu'il faut qu'il y ait un retrait, et en même temps, vous dites que le Parlement n'est pas assez pris en compte dans ce pays. Pourquoi tout simplement ne pas laisser faire le travail parlementaire, puisqu'il va y avoir le Sénat ensuite et un retour à l'Assemblée ?
Écoutez, nous verrons, vous êtes député. Mais je crois, au vu de ce qui se passe dans le pays, au vu de la situation, au vu du niveau de tension, de conflictualisation, je crois qu'il y a un moment où il faut savoir reculer. Et que le gouvernement s'honorerait de le faire. Et que la dernière fois qu'il est venu se présenter devant les Français au JT de 20h, Gérald Darmanin aurait été bien inspiré, plutôt que de rester droit dans ses bottes, dans la trajectoire de son mentor Nicolas Sarkozy, de reculer. Il se serait honoré de le faire, de limoger le préfet l'Allemand et de dire l'article 24, la loi sécurité globale, on la met de côté. Je veux dire que cet article 24 ne va pas permettre de finalement protéger davantage les policiers. La loi permet déjà, Benjamin Sportouche, que quand un policier est menacé, d'ailleurs, et pas qu'un policier, évidemment, quand son intégrité est menacée, évidemment qu'il faut être absolument intraitable. Mais cet article vise quoi précisément ? Comme les policiers ont un rôle préventif avant qu'un délit soit commis. Et que l'article parle d'une intention de nuire à l'intégrité psychique ou physique. Ça veut dire que demain, si Amélie Carouer prend son téléphone portable dans une manifestation et décide de filmer l'action des forces de police, un policier pourra préventivement décider qu'Amélie Carouer peut-être s'apprête, en diffusant ces images, à nuire à son intégrité psychique. Et donc on voit bien ce qui se passe derrière. C'est que le risque, c'est que les images, on ne les ait plus, ou qu'on les ait moins. Et dans le cas de M. Michel Zecler, vous savez très bien que si nous n'avions pas eu les images, ça aurait été sa parole contre celle des policiers, et peut-être que la chanson n'aurait pas été la même. Donc cet article doit être retiré, et je veux juste terminer en m'adressant une bonne fois pour toutes aux policiers de ce pays. S'il vous plaît, plutôt que simplement d'écouter les quelques syndicats factieux dont M. Darmanin s'est fait le porte-parole,
écoutez un instant, de mafia
écoutez un instant
au sein
des
de
propositions.
La police, écoutez, vous reprenez le mot de Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé de mafia hier.
Il a parlé d'une milice barbare, s'agissant effectivement hier des policiers qui agissent de cette sorte. Et quand je vois que des syndicats de police s'en prennent à des élus,
lesquels,
quand je vois,
syndicats de police,
écoutez,
vous visez,
on les voit, Synergie, Alliance, on les voit. Et il n'y a plus de place.
Factieux.
Il n'y a
factieux,
plus de place. Écoutez,
ça a un sens, le qualificatif de factieux. Ça veut dire, ce sont des gens qui s'opposent à la République, à la loi.
Guillaume Roquette, pardon, mais les policiers de ce pays sont là pour servir et obéir. Et quand vous voyez des policiers manifester la nuit aux abords de l'Élysée et parfois s'en soumettre aux ordres, il y a un problème, oui. Il faut une reprise en main de la police républicaine de ce pays. Et j'aimerais juste, si vous me permettez, parce que je n'y arrive pas depuis tout à l'heure, de m'adresser aux policiers de ce pays en leur disant une bonne fois pour toutes, arrêtez d'intérioriser que nous serions des anti-flics, écoutez nos propositions et jugez-les sur le fond. Voilà ce que nous proposons. Le but, c'est la désescalade. Pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Que faire pour cela ? Nous disons, et nous avons été les premiers à dire, qu'il fallait en recruter davantage. Je vous l'ai dit, 150 suicides de policiers depuis le début de ce quinquennat, on connaît la souffrance de ces femmes et de ces hommes. Il faut en recruter plus, et M. Darmanin lui-même a participé en son temps à une majorité de droite qui a ruiné les effectifs de police et qui les a fait fondre dans des proportions considérables. En recruter davantage, accroître la formation, qui aujourd'hui, vous le savez, est une formation low cost, expéditive. Il nous faudrait 2 années de formation pour bien former les gardiens de la paix. Un retour à la police de proximité, qui connaît son territoire, qui connaît son terrain, qui connaît les gens et qui sait résoudre les conflits sans forcément faire monter les tensions, comme ça se fait dans d'autres pays, y compris en Europe. Et en finir avec cette politique du chiffre absurde qui fait que la police est trop occupée à faire des choses qui ne sont pas les premières utiles. Par exemple, dans la lutte contre le trafic de drogue, on s'attaque trop aux petits consommateurs sans véritablement s'attaquer au trafic. Il y a des choses intéressantes
à
faire.
Vous parlez de désescalade, mais est-ce que vous n'exagérez pas la situation? Vous parliez de Gérald Darmanin et de son intervention à la télévision. Il disait, a priori, ces chiffres sont crédibles, que sur 3 millions d'interventions policières, en une année, il y en a 9500 qui font l'objet de signalements de la part des Français. C'est-à-dire que c'est 0,3%. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de dresser la police contre le reste de la population en montant en épingle des événements qui sont graves, mais qui sont quand même très, très minoritaires?
Peut-être minoritaires parce qu'aussi peu signalés. Et regardez, par exemple, l'IGPN, voyez les suites en général. Cette instance aujourd'hui sert davantage à couvrir. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, c'est une instance où des policiers décident entre policiers du sort de policiers. Non, il faut un peu de respiration démocratique dans tout ça. Il faut qu'il y ait des policiers, bien sûr, il faut qu'il y ait des magistrats, il faut qu'il y ait des citoyens. Vous savez, moi, je m'inquiète de voir cette modification, finalement, de la doctrine qui va vers toujours plus de conflictualisation. Moi-même, je veux dire, je n'ai pas une longue expérience des manifestations compte tenu de mon âge, mais j'ai vu le changement en quelques années. Et je le dis, c'est d'abord les ordres qui sont donnés, la hiérarchie qui donne ces ordres. Par exemple, dans l'encadrement des manifestations, Guillaume Roquette, un policier qui encadre une manifestation ne doit pas se vivre, avant même que la manifestation commence, comme un adversaire des manifestations. Je ne dis pas que ça soit le cas de tous les policiers, mais souvent, à cause des ordres qui sont donnés, c'est pourquoi je ne les mets pas en cause eux, mais leur hiérarchie, on sent qu'il y a ce niveau de tension. Guillaume Roquette, hier, dans les rues de Paris, avant d'aller à la manifestation, j'ai croisé d'honnêtes gens qui avaient envie d'aller à la manifestation. Et mon équipe pourra en témoigner parce qu'on était tous perturbés par ces témoignages qui disaient « j'ai peur d'aller manifester parce que j'ai peur de la police désormais ».
Vous avez aussi des gens qui vous ont interpellé sur le fait que vous méprisiez la police. Donc une femme sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, on voit une femme vous interpeller en disant que vous ne souteniez pas les forces de l'ordre et qu'elle regrettait cela.
Benjamin Sportouche, je crois que si vous m'avez entendu ce matin et si on est honnête entre nous, je crois que dans les propos que j'ai tenus aujourd'hui, j'ai été très clair.
Mais vous êtes clair.
Et que j'ai apporté des propositions.
Et vous êtes plutôt apaisant. Sauf que tout cela n'est-il pas noyé par des propos comme des syndicats factieux, où je reprends Jean-Luc Mélenchon hier dans son meeting sur Internet, le premier de la campagne présidentielle.
Un beau meeting.
Avec beaucoup de gens,
c'est vrai.
En tous les cas, 15 000 personnes en un instant T.
25 000 en tout, sur tous les réseaux. On y viendra plus tard.
On ne va pas faire une bataille des chiffres comme entre le ministère de l'Intérieur et les organisateurs de manifestations. Le propos la question que je voulais vous poser, c'est sur Didier Lallement. Jean-Luc Mélenchon dit hier, il est psychologiquement perturbé. Son autorité vient compenser des mésaventures personnelles. Est-ce qu'en disant cela, justement, ce n'est pas cela qui met en avant plutôt que vos propositions? Cela ne noie-t-il pas le fond de ce que vous dites quand il y a des attaques de cette nature?
Non, je ne crois pas. Quand M. Darmanin attaque bassement Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il filerait un mauvais coton, quoi que ce soit, ça éteint pas.
Là, je vous parle de Didier Lallement.
Mais ça n'éteint pas ses propositions par ailleurs. Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon est clair. Et vous savez, Benjamin Sportouche.
Vous rediriez qu'il est psychologiquement perturbé.
Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose. Écoutez, comment vous expliquez? On va en parler un instant alors. Vous trouvez normal qu'un préfet de police, juste après les manifestations des Gilets jaunes, interpellé par une femme dans la rue, réponde à cette dame, un préfet de police, Benjamin Sportouche, « Madame, nous ne sommes pas du même camp. » D'accord ? Un préfet de police qui incarne l'autorité de la République, qui se vit comme appartenant à un camp. Non, monsieur Lallement, il n'y a pas plusieurs camps en République, il n'y en a qu'un seul, c'est le peuple souverain. Et c'est lui que vous devez servir. Voilà. Donc à un moment donné, des personnages comme celui-ci, qui avant d'avoir été nommé préfet de police de Paris, s'était même félicité du fait que mon collègue Loïc Prud'homme, député participant à une manifestation à Bordeaux, avait été frappé, oui, me paraît un peu dérangé et surtout dangereux. Qu'il aille faire d'autres choses peut-être, il y a d'autres choses à faire. Mais il a montré, depuis les Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, son inefficacité à faire ce qu'il convient de faire.
Voilà. Entendu. Alors vous parliez aussi bien de l'évacuation en début de semaine des migrants de la place de la République à Paris, Amélie Carouer.
Et là encore, des images ont pu faire polémique, ont pu choquer, notamment ce croche-pied fait par un membre des forces de l'ordre à un migrant. En parallèle de ça, un sondage a été réalisé et qui montre que 74% des Français, sondage IFOP, approuvent l'évacuation de la place de la République. Comment vous réagissez? 74% approuvent.
mais approuvent le fait qu'on ait à évacuer cette place peut-être, mais est-ce qu'ils approuvent les formes dans lesquelles ça s'est fait? Je ne connais pas votre sondage.
Non, je parle vraiment de l'évacuation des migrants, pas sur la méthode l'utilisation de la force.
Donc ça nous amène à un débat sur la question de l'immigration, on est d'accord? Parce que sur la manière dont ça a été fait, je pense que ça a soulevé les cœurs de tout le monde.
Oui, mais
je
quand même, on peut y revenir quelques instants. Parce que comment faites-vous, si vous êtes à la place des policiers, si les migrants ne veulent pas partir? Il y a des associations qui les ont, qui ont organisé cette installation sur la place de la République.
Cette action symbolique, oui.
Donc, est-ce que ce n'est pas une forme de provocation quand même?
Ça s'appelle aussi faire de la politique, parce que vous savez, il y a des droits à faire respecter. Et par exemple, le fait qu'on ait droit à un toit sur sa tête. D'autant plus qu'il me semble que la mairie de Paris avait fait des propositions pour ouvrir des locaux. Donc à un moment donné, il est normal que les associations jouent ce rôle-là. Parce que quoi qu'on en pense, on a des droits humains et on est dans le pays des droits de l'homme. Et donc peut-être qu'effectivement la place peut pas être occupée durablement par des associations qui font ce travail.
Donc elle était légitime, cette évacuation.
Mais l'évacuation à terme était légitime. Est-ce qu'il y avait besoin d'évacuer tout de suite le soir et puis surtout de cette manière brutale qui met directement en cause M. Darmanin et M. Lallemand? Est-ce que vous, Guillaume Roquette, quelles que soient vos opinions politiques, et je sais que nous n'avons pas les mêmes, vous supportez des images où on voit des policiers prendre une tente avec une personne qui se repose dedans et la secouer comme un sac à pommes de terre et voir cette personne tomber? Est-ce que ce sont des images qu'indépendamment de vos considérations politiques, vous supportez? Moi non, je ne les supporte pas.
Non, parce qu'on préférerait que ces personnes acceptent de quitter les lieux sans résister.
Et d'aller où? Et d'aller où?
Mais d'aller dans les endroits où on leur propose
voilà.
des relogements.
Et bien
voilà. Chaque fois qu'il y a une évacuation.
Et bien, très bien. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y avait pas de solution de relogement. Et que c'est parce qu'il n'y avait pas de solution de relogement qu'on agit de cette manière, les associations, précisément pour les exiger. Sommes-nous d'accord? Parce que maintenant, si vous voulez qu'on parle d'immigration, on peut le faire. Et moi, je vais vous dire une chose.
C'était le sujet, du coup, sur lequel on avançait.
Ok, et bien très bien. Moi, je vais vous dire une chose qu'il faut que tout le monde entende. C'est que partout dans le monde, les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ça concerne à peu près 67 millions de personnes qui ont à se déplacer. Ces mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité et ils ont des causes profondes. Il n'est pas vrai que quelque part sur le globe, des gens se réunissent entre eux, font tourner le planisphère et puis disent « pouf, on va aller s'installer là-bas ». On fait pas, on n'immigre pas comme on irait dans une agence de voyage. Ça, c'est absolument pas vrai. On immigre toujours parce qu'il y a des souffrances. On s'arrache à sa terre, on s'arrache aux siens. Alors, quelles sont les causes des mouvements de population? Parce que les gens aspirent d'abord à une chose, vivre et travailler au pays. C'est leur première aspiration. Sauf qu'il y a des causes au fait que les gens se déplacent. La première, ce sont les conflits internationaux dans lesquels souvent nous sommes mêlés et nous pourrions avoir notre mot à dire, notamment en retrouvant une forme d'indépendance, en quittant certaines alliances qui, de mon point de vue, n'ont plus lieu d'être, comme l'OTAN. Parce que la France peut jouer son rôle de puissance médiatrice à travers le monde pour solder notamment certains de ces conflits. Ensuite, il y a la question des accords commerciaux inégaux. Quand il y a des accords commerciaux qui ruinent littéralement les capacités des pays avec lesquels on passe ces accords à se développer, vous ruinez les capacités économiques et donc les gens cherchent un débouché. Et ensuite, et c'est peut-être aussi le plus important compte tenu des proportions sur lesquelles ça va nous amener, tous les rapports du GIEC, tous les rapports s'agissant de la crise climatique nous disent qu'il va y avoir dans les prochaines décennies des mouvements de population considérables compte tenu de la crise climatique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut naturaliser tous les sans-papiers qu'il y a actuellement en France?
À la France Insoumise, nous sommes clairs, nous sommes pour la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers. C'est-à-dire, et d'ailleurs, 70% des
combien
Français, pour reprendre
combien
un sondage...
Combien estimez-vous ce nombre?
Je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais en tout cas, je sais qu'ils sont nombreux à travailler, et y compris d'ailleurs Benjamin Sportouche, dans la crise du Covid-19, il a été dit... y compris par beaucoup de responsables politiques, que ces gens-là travaillaient dans les domaines qui étaient en première ligne.
Mais le gouvernement le fait, Adrien Quintin. Le patron,
régulariser tous les travailleurs
le patron, non, mais en tous les cas, il donne des titres de séjour. Le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky, dit qu'il y a 274 000 nouveaux titres de séjour accordés chaque année, que la France ne manque en aucun cas d'humanité, contrairement aux pays voisins, avec en plus la couverture maladie offerte aux personnes en situation régulière, l'aide médicale d'État, le doublement des places d'hébergement consacrées aux demandeurs d'asile en 5 ans. Vous disiez qu'il n'y a pas de place, mais il y a eu ce doublement en 5 ans. La France est-elle inhumaine?
Benjamin Sportouche, disons les choses. Je vous ai donc parlé des causes. Première chose, il faut traiter ces causes. Parce que si on ne les traite pas, si par exemple
mais
on ne traite pas, je vais vous répondre.
D'accord,
si on ne traite pas radicalement le changement climatique, par exemple, on pourra discuter de vos chiffres et de tout ça.
Ah bah, il va y avoir. L'Office français.
Ce que je veux dire, c'est qu'on pourra en discuter.
Vous pouvez pas les remettre
il va y
en
avoir
question.
Des dizaines, des centaines de millions de personnes qui, Benjamin Sportouche, ne vont pas choisir de se déplacer, ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire.
Mais
donc vous pourrez regarder sur le coin de votre papier vos petites règles et les, il va y avoir des mouvements de population massifs.
Mais du
donc,
coup, les
que faire
pensent...
quand les gens.
Je pense de façon assez majoritaire que nous devons nous protéger justement pour éviter que ces centaines de millions de personnes arrivent chez nous.
Mais Guillaume Anka, il ne s'agit pas de se protéger contre les pauvres gens qui se déplacent. Il s'agit ici, il s'agit de se protéger d'abord
peut-être...
Vous
les laissez entrer ?
Attendez, je vais vous répondre. Mais il s'agit peut-être, en êtes-vous d'accord, de traiter les causes. Si on veut éviter d'avoir ces vagues migratoires très imposant.
Mais ça, vous nous l'avez dit. Mais,
non, mais
depuis
je vous
le
l'ai
début
dit.
De l'année,
non, mais attendez,
les chiffres,
non,
juste un instant.
Attendez,
les
je vous l'ai dit, mais est-ce que vous supportez que ça soit un vrai sujet?
Bah,
parce que
pas,
si
parce
on
que
ne
les
fait
chiffres,
rien.
Les chiffres des Nations Unies, du commissariat aux réfugiés, disent que depuis le début de l'année, les immigrants clandestins qui rentrent en France, qui rentrent en Europe, pardon, par la Méditerranée, ils viennent majoritairement de Tunisie, de Maroc, d'Algérie. Ce ne sont pas des pays qui sont spécialement touchés ni par la guerre, ni par le réchauffement climatique.
Alors, écoutez-moi. Je vais vous dire une chose très claire. Quand des gens traversent les mers, parfois au péril de leur vie, et arrivent jusqu'à nos frontières, dans des situations dramatiques, je crois que nous avons, que l'Union européenne a l'occasion de les accueillir. Si vous voulez savoir quelles sont les proportions qui arrivent en moyenne chaque année sur l'Union, en l'Union européenne, c'est à peu près 2 personnes pour 1000 habitants de l'Union européenne. La vraie difficulté que nous avons, c'est que l'Union européenne est incapable de coordonner l'effort qu'il y a de partage de cet accueil. Voilà, elle ne le fait pas. On a des règlements qui sont absolument obsolètes, comme par exemple le règlement de Dublin qui fait que c'est le pays dans le, que vous franchissez le premier qui doit s'occuper de toute l'administration et de l'accueil. Il faut répartir les conditions de cet accueil. Pour moi, il y a deux choses à faire. D'un côté,
on répartit, se comporter, mais on limite pas.
D'un côté, se comporter en humain responsable et avec humanité et créer les conditions d'un accueil digne. Et de l'autre, ce qui n'est pas fait d'ailleurs, traiter, comme je l'ai dit, les causes pour limiter le caractère finalement inéluctable de ces mouvements de population. Par exemple, est-ce qu'on va se soucier enfin de planifier la bifurcation écologique pour traiter la grande cause climatique qui va faire que des tas de personnes ne vont pas avoir d'autre choix que de partir.
Écoutez justement la question.
Mais bon, il est déjà midi 26 et j'espère qu'on va avoir du temps pour parler de tous les sujets économiques, la pauvreté.
Mais nous faisons des questions courtes. Si vos réponses le sont aussi, on arrivera à aborder.
Promis, je vous réponds par oui ou non maintenant.
Et nous sommes là pour converser sans problème. Écoutez la question. En plus, elle porte notamment sur les migrants. Elle est posée par une jeune étudiante. Les propos sont recueillis par Chantal Busson.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur Quatennens, je m'appelle Marie, je suis étudiante en sciences politiques en programme franco-allemande, je suis française mais j'ai grandi en Allemagne. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup critiqué la chancelière allemande pour sa politique sociale. Sauf qu'en 2015, pendant la crise humanitaire des réfugiés, Angela Merkel a accueilli plus d'un million de migrants et en même temps, le taux de chômage en Allemagne est beaucoup plus bas qu'en France. Ma question est donc simple. Angela Merkel, qui est extrêmement appréciée par les Allemands et qui en même temps a 15 ans de pouvoir derrière elle, est-elle encore aujourd'hui votre contre-modèle ?
Adrien Quatennens.
Mais attendez, quand Angela Merkel a accueilli ces personnes, on sait aussi, alors évidemment, l'effort d'accueil a été plus important qu'en France, on peut le saluer, mais on sait aussi que ça a été fait opportunément, économiquement, politiquement. Et d'ailleurs, il faut le dire, mais y compris aux dirigeants français. Bah oui, ça a été fait, mais parce que contrairement à l'adage selon lequel quand il y a de l'accueil, il y aurait un problème économique qui en découle, non, c'est pas le cas. Et l'exemple allemand peut le montrer.
Donc, quel est votre contre-modèle
pardon
Angela, la chancelière allemande est toujours le contre-modèle de la France insoumise.
Vous ne pouvez pas prendre, isolée la question de l'accueil des migrants, parce qu'à côté de ça, l'Allemagne, c'est les jobs à 1 euro, c'est un tas de choses sur le travail et l'organisation des conditions de travail avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Bon, donc voilà. Mais sur cette question-là, ça mérite d'être regardé. Non, il n'est pas vrai de considérer que l'accueil raisonnable des personnes qui migrent serait un problème économique automatiquement. C'est faux.
On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce grand jury d'Adrien Quatennens. On parlera bien sûr notamment de la pandémie. À tout de suite.
Sephora.
sur Sephora.fr. La beauté est une fête. On raffole des parfums et des coffrets parfums à moins 30% jusqu'à demain. On est fan de la marque Fenty Beauty à moins 20% et ce, jusqu'à ce soir. Nos équipes se font une joie de vous accueillir en magasin. Bien sûr, le click and collect reste disponible. Commandez sur Sephora.fr, récupérez en 2 heures et en toute sérénité votre commande en magasin. Bienvenue à nouveau chez Sephora. Voir conditions sur Sephora.fr. Sephora, the unlimited power of beauty. Le pouvoir infini de la beauté. Yabi, le bonheur d'être à vos côtés. Et si le sens du bonheur, c'était d'être partagé? En cette période si particulière, Kiabi inaugure avec vous le Good Friday, une semaine 100% solidaire sur kiabi.com où nous nous engageons à reverser 1% des ventes générées à une association d'aide alimentaire. Des petits prix pour vous, du bonheur pour tous. Kiabi, le bonheur d'être à vos côtés jusqu'au 29 novembre. Good Friday, le vendredi solidaire.
Bonjour, c'est de nouveau le frère Yves Combeau. Si le jour du Seigneur existe depuis 70 ans, c'est aussi grâce à votre soutien. Aidez-nous à continuer en faisant un legs. Cela veut dire que le jour où vous ne serez plus là, votre patrimoine peut aller au jour du Seigneur. Il restera quelque chose au-delà de vous qui permettra à d'autres de garder un lien avec l'Église.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.
Carrefour Market. Pour Noël, qu'on ait envie d'un petit sapin, d'un moyen sapin ou d'un immense sapin, on aura 20 euros offerts. Et oui, jusqu'au 6 décembre, chez Carrefour Market et leur drive, qu'on les aime grands, petits, touffus ou non, il y a 20 euros offerts en bon d'achat pour l'achat d'un sapin Nordman. Donc, si vous choisissez un sapin d'une valeur de 20 euros, il sera 100% remboursé en bon d'achat. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour Market.
Pour un sapin de 20 euros minimum, offre limitée à un bon d'achat valable du 7 au 20 décembre pour un minimum d'achat de 30 euros. Modalité magasin participant sur carrefour.fr.
Bonjour, c'est Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Est-ce que vous allez voir votre famille à Noël? Est-ce que vous préférez le télétravail? Je pose la question au 32-10.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole 13h-14h30 du lundi au vendredi.
Vous écoutez RTL. RTL vous écoute.
RTL, il est 12h30. Les informations, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Peggy, bonjour à tous. 130 000 manifestants contre la loi de sécurité globale hier d'après l'Intérieur. 500 000 selon les organisateurs. Des manifestations de salubrité publique selon Adrien Quatennens. Le député et la France Insoumise du Nord est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il demande le retrait de l'article 24. Le ministre Gérald Darmanin dénonce lui des violences inacceptables. 62 policiers et gendarmes blessés à l'issue des rassemblements en France. Après une semaine marquée par les violences policières, évacuation musclée d'un camp de migrants, producteurs de musique tabassée, le député Adrien Quatennens réclame également le limogeage du préfet de police de Paris, Didier Lallement. A noter que les 4 policiers soupçonnés d'avoir roué de coups le producteur sont interrogés par l'IGPN, garde à vue prolongée hier. Conférence de presse du procureur de la République, rendez-vous à 17h. Le gouvernement a 3 jours pour revoir son décret. Le Conseil d'État se positionne contre la limitation à 30 personnes du nombre de fidèles dans les lieux de culte. L'épiscopat rencontrera en fin de journée le Premier ministre. Monsieur le Président, ne tuez pas la montagne française. Tribune signée par des professionnels du ski et des élus, dont le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il réclame la réouverture en décembre des remontées mécaniques. Un drame en mer, évité de justesse hier. 45 migrants, dont une femme enceinte et des enfants, ont été secourus au large de Dunkerque. Ils étaient en difficulté à bord d'une embarcation de fortune. Les sports en rugby, victoire du 15 de France face à l'Italie hier soir. Les tricolores pourront disputer la Coupe d'automne des Nations. Ne manquez pas l'hommage d'RTL ce soir à Christophe Dominici dans On refait le sport. En football, le PSG a concédé le match nul de partout hier soir face à Bordeaux. Suite et fin aujourd'hui de la 12e journée de Ligue 1 avec Saint-Étienne-Lille en clôture à 21h. Et c'est à vivre dans RTL Foot. Et puis la Formule 1, Lewis Hamilton s'élancera en pole position du Grand Prix de Bahreïn. Départ de la course tout à l'heure à 15h10. RTL, il est midi 32. Tout de suite, le grand jury continue.
Bonjour, c'est Laurent Marsic.
Lis-moi une histoire.
RTL et Albin Michel Jeunesse ouvrent pour une deuxième saison la grande bibliothèque à histoire.
Son crâne faisant comme un gros rocher noir au milieu d'autres rochers noirs. Kong était hypnotisé par la jeune femme.
Cette semaine, retrouvez un gorille mythique du cinéma américain. King Kong, de Fred Bernard et François Rocca, lu par Sonia Marcotte, bibliothécaire jeunesse, dans le Val-d'Oise.
Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode de Lis-moi une histoire sur RTL.fr et l'application RTL.
Promotion, réduction, trouver des bons plans prend du temps. C'est pourquoi l'appli de votre carte de paiement Gold American Express vous propose en permanence des offres de remboursement en ligne ou en magasin. Profitez de la plus gold des cartes Gold et de tous ses autres avantages. Carte gratuite les premières années, plus 80 euros remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. Offre et conditions sur americanexpress.fr/gold.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro, Amélie Carrère de TF1 LCI, nous en venons à la loi sur le séparatisme qui sera très bientôt présentée en Conseil des ministres. Ce sera le 9 décembre. Amélie Carrère.
Jean-Luc Mélenchon, hier, pendant son meeting, a pointé du doigt ceux qui habillent de laïcité la haine des musulmans. Vous estimez que c'est ce que fait le gouvernement ?
Alors juste si vous me permettez, pendant le petit moment de publicité qu'il y avait avant la reprise, il a été dit que j'avais réclamé simplement le retrait de l'article 24. Je veux juste faire cette précision, je réclame le retrait de toute la loi sécurité globale.
Pour moi, c'est
les raisons que j'ai évoquées. Moi, la précision est faite.
Et du préfet de police.
Et du préfet de police. Et le limogeage du préfet de police.
Et du ministre de l'Intérieur, vous nous avez dit quoi alors ?
Je pense qu'il est très fragilisé.
Ah, mais vous n'en demandez pas le départ.
Écoutez, pourquoi pas ?
Ah, pourquoi pas ? Bon, on reste à ce stade-là. Alors on en revient à la loi séparatisme.
La loi séparatisme, donc.
Bon, disons une chose. Je trouve que dans le débat public, la laïcité, la République, sont souvent utilisées à mauvais escient par des gens qui s'en réclament comme les plus grands défenseurs. La République, ce n'est pas un régime neutre, c'est un régime qui porte un contenu politique. Liberté, égalité, fraternité, c'est un programme, en fait, en quelque sorte, qu'il faudrait voir aboutir partout dans le pays. Et ça n'est pas fait aujourd'hui. Donc il y aura un vrai sujet sur cette question. Quant à la laïcité, on observe qu'elle est mal comprise aussi. Quand elle est utilisée uniquement et parfois souvent à géométrie variable, pour suspecter les croyants d'une seule religion, ça n'est pas la laïcité.
Ce que fait encore le gouvernement aujourd'hui, selon vous, ils habitent de laïcité la haine des musulmans. Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, a critiqué ceux qui font ça hier. C'est ce que vous pensez du gouvernement ?
Et on va regarder dans le détail le texte qui va nous être proposé au mois de décembre. On a déjà l'avant-projet de loi, on a quelques éléments portés à notre connaissance. Mais quand j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron qu'il a fait pour ouvrir cette séquence,
au Mureau.
Il nous est apparu assez clairement qu'Emmanuel Macron jouait régulièrement de la confusion entre les musulmans de ce pays qui doivent être protégés et les islamistes politiques et les terroristes qui, eux, doivent être combattus. Les choses sont assez claires, Amélie Carrère. Les terroristes islamistes, le terrorisme islamiste doit être éradiqué. Mais les musulmans de ce pays doivent être protégés. Or, trop souvent, il y a une confusion qui règne entre tout cela. Rappelez quelques principes fondateurs. La laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est la garantie de notre capacité à vivre ensemble par-delà nos différences d'appréciation et de croyance. On a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire, et la laïcité sépare strictement le politique du religieux. Pas de religion en politique, pas de politique en religion. C'est pourquoi, par exemple, nous considérons que ça n'est pas à l'État d'organiser les religions. L'État, son rôle, c'est de faire respecter les lois de la République. Et quand il y a non-respect des lois de la République, de les faire respecter. Mais c'est très important de dire, pas de religion en politique, pas de politique en religion. Et de rappeler aussi une chose, Amélie Carrère, c'est que la laïcité, c'est pas seulement la séparation des églises et de l'État. C'est aussi la réaffirmation de notre égalité à toutes et tous, en droit et devant la loi. Et donc, je le dis, par exemple, les laïcs et les républicains devraient être en première ligne du combat contre les discriminations et du combat antiraciste. Car le racisme est par définition antirépublicain. Ce qui compte pour nous, c'est l'unité du peuple en France, son caractère indivisible face aux grands défis que nous allons devoir affronter. Voilà ce que nous voulons dire. Donc nous ne voulons pas d'une loi des suspects. Si c'est ça qui nous est proposé, nous ne serons pas d'accord. En revanche, j'ai vu qu'il y avait
suspects,
eu un petit...
Vous dites.
Ouais. Si c'est une loi qui fait la suspicion sur une religion en particulier, nous ne serons pas d'accord. Nous
mais
ne
vous pas semblez d'accord. Dire que ce sera le cas vous,
bah écoutez, de procès en tout cas, au vu de la présentation d'Emmanuel Macron, qui nous avait parlé d'un discours sur les séparatismes au pluriel...
Mais non, le titre a changé. La loi ne s'appellera pas comme ça. Ce sera renforcement des valeurs de la République et de la laïcité.
Eh bien, je vais vous dire une chose.
Confortant les principes républicains.
S'il s'agit de conforter les principes républicains, il s'agira donc de conforter l'égalité, Il s'agira donc de conforter la fraternité, il s'agira donc de conforter nos libertés. Vous en serez d'accord. Donc nous aurons des propositions
alors,
à faire.
Pour en rester...
Mais même sur la laïcité, ouais. Je termine d'un mot. La laïcité, pas de géométrie variable.
Attends.
Il faut de la laïcité en positif.
On va faire, justement, c'est le thème de notre, nos questions express, pour ou contre.
Le grand jury, question express.
Alors Adrien Quatennens, pour ou contre l'obligation de neutralité de tous les représentants du service public ?
De ceux qui sont en contact avec du public.
Uniquement ceux qui sont en contact avec
voilà.
le public. Pour ou contre l'interdiction des horaires séparés dans les piscines ?
Pardon ?
L'interdiction des horaires séparés, différenciés dans les piscines.
Si c'est pour des motifs religieux ou communautaires, je suis pour l'interdiction.
D'accord. Mais pour d'autres motifs, vous pouvez l'être ?
Non, mais je ne vois pas quel autre motif
d'accord.
nous pourrions avoir.
Pour ou contre à mettre un terme aux imams détachés venant de pays étrangers ?
Sous réserve de ce qu'ils prêchent, je pense qu'effectivement, la question mérite d'être posée. Et par exemple, l'une des questions que nous aurons à traiter, c'est la question des financements étrangers, qu'il nous faut bien connaître. J'en suis d'accord. Vous savez, juste d'un mot, dans cette proposition, dans ce projet de loi, il y aura sans doute des choses avec lesquelles nous serons d'accord. En revanche, je mets en garde.
Oui.
Nous ne serons pas d'accord s'il s'agit de faire une loi exclusivement réservée à la suspicion contre les musulmans de ce pays qui, pour l'immense majorité d'entre eux, demandent juste à pouvoir pratiquer leur culte
alors,
très tranquillement.
Justement, pour ou contre un conseil des imams, justement, c'est l'une des propositions qui est faite pour ou contre un conseil des imams pour former les imams de France. Est-ce
Mais
que vous êtes pour ou contre cette proposition
ça
du
n'est
gouvernement
pas à, ça n'est pas à l'État d'organiser la religion, je l'ai dit. L'État doit faire respecter les lois de la République. Si des religieux, quels qu'ils soient, sont en dehors du cadre des lois de la République, alors l'État intervient. Mais l'État n'a pas à se mêler d'organiser la religion. Déjà, faire respecter les lois de la République, c'est un vaste travail, vous savez. Donc ça, il faut le faire. Et puis, redire une chose, il faut de la laïcité en positif. Il faut montrer que ce n'est pas juste quelque chose finalement qui serait comme un couperet. Par exemple, nous avons besoin, et nous souhaitons à la France insoumise, qu'on ait des écoles publiques et laïques dans les 500 communes où il n'y en a plus, Benjamin Sportouche, dans ce pays. Et où on a fait plus de place au privé.
Justement, c'est le dernier pour ou contre, puisque vous parlez des écoles. Est-ce que vous êtes pour ou contre la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostentatoires à l'école ?
Je suis pour l'interdiction totale des signes religieux à l'école.
Parce que là,
évidemment.
Il y a débat dans votre mouvement. Daniel Obono, par exemple, est contre... qui est député à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée nationale, et contre cette loi de 2004.
Bah, en tout cas, je vais vous dire une chose, je ne sais pas quelle est la position de Daniel Obono à cette heure, mais vous savez, vous parliez de ça dans votre introduction tout à l'heure, Benjamin Sportouche. Oui, dans un grand mouvement comme la France insoumise, qui a en plus une forme assez inédite, nouvelle, un mouvement, il y a des gens qui ont des parcours politiques divers, qui viennent de différents endroits, mais il y a une chose qui, par-delà toutes nos différences, nous lie et qui nous engage vis-à-vis des Français. Ça s'appelle un programme. Et le programme de la France insoumise, non seulement ne peut être suspecté d'aucune ambiguïté en la matière, mais en plus, je le dis, est bien plus conséquent et moins à géométrie variable que les propositions et les agissements de celles et ceux qui nous font régulièrement
encore
des leçons.
Question, alors, encore une question dans le domaine religieux. Il y a quelques minutes, le Conseil d'État vient d'ordonner au gouvernement de revoir sa décision qui limite à 30 personnes le nombre de participants à une messe. Les catholiques s'en réjouissent. Est-ce que vous vous réjouissez avec eux?
Je me réjouis de voir qu'on avance vers une plus grande liberté de pratique du culte, y compris au sein de la crise sanitaire. Vous savez, quelles que soient mes convictions personnelles, que je sois athée ou que je sois croyant, peu importe, et d'ailleurs je n'en parlerai pas, parce que je suis justement un représentant de l'État, de la République, pardon. Et en cela, et nous considérons d'ailleurs que dans leurs fonctions, les ministres et même les parlementaires, les élus, ne doivent pas participer dans leurs fonctions à des cultes. Une des propositions que, par exemple, nous pourrions faire pour renforcer la laïcité, évidemment que pour plein de gens, c'est extrêmement important et même essentiel pour eux, et c'est leur droit, la liberté de croire et de pratiquer, de pouvoir, dans ces temps troublés, pratiquer leur culte. Donc si on peut avancer, très franchement, quand on voit ce qui se passe dans les supermarchés, on comprend mal que, par exemple, dans un lieu de culte où il y a quand même plus d'espace, on soit limité à ce point pour des offices. Donc oui, ça va dans le bon sens, et j'espère qu'on avancera là-dessus. Vous savez, d'un mot pour finir sur ce sujet. Si la loi vise à renforcer les principes républicains, si la loi vise à faire autre chose que de suspecter quelques-uns, ce qui sera insupportable, si elle vise à accroître la laïcité, nous aurons des propositions à faire. Vous pourriez dire qu'elles sont juste symboliques, mais j'en pose juste une. La loi laïque par excellence, c'est la loi de 1905. Bah, premier amendement, par exemple, de la France insoumise. Messieurs, dames, est-ce qu'on est d'accord pour que la loi de 1905 s'applique sur l'ensemble du territoire français ?
Non.
Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a d'endroits où elle ne s'applique pas. Et donc là, vous verrez qui sont ceux qui vont jusqu'au bout dans la laïcité et qui sont ceux qui ont des ambiguïtés ou de la géométrie variable. Pas de géométrie variable.
Pensez à la Lorraine et à l'Alsace où il y a
Écoutez, vous savez qu'en Alsace-Moselle, il y a le Concordat.
Vous voulez
donc que la loi de 1905. Alors, je sais bien que ça ne va pas solutionner la lutte contre le terrorisme islamiste, sur laquelle j'ai des propositions, nous avons des propositions à faire. Mais s'il s'agit de renforcer la laïcité, ben ça y participera.
Alors, on avance et on parlait des cultes dans le cadre de la pandémie. Se pose bien sûr la question des vaccins, Amélie Carrère.
Exactement, le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Aurait-il fallu le faire? Au passage, je vous demande, comme à tous, si vous envisagez de vous faire vacciner.
Alors, plusieurs choses. D'abord, je considère qu'en effet, l'obligation n'est pas la meilleure méthode et des organismes de santé le disent. Qu'il vaut mieux travailler à la conviction et au volontariat que d'obliger, parce que c'est plus efficace. Ensuite, ce que j'observe pour l'instant, c'est que les choses vont vite s'agissant de ce vaccin, sur lequel, moi, je dispose de peu de données sanitaires. Je vois les effets produits par les annonces sur les cours de bourse et sur les reventes d'actions, mais je ne dispose pas encore des informations permettant de statuer sur la sûreté sanitaire de ce vaccin.
Et donc, d'ailleurs, quand on parle d'une campagne à partir de fin décembre, début janvier, vous dites qu'on va trop vite?
Dans tous les cas, c'est un immense espoir d'imaginer que nous ayons des outils pour lutter contre cette pandémie. Et le vaccin serait un immense espoir. De la même manière, et je le dis, pas seulement le vaccin, des médicaments. Parce que le virus peut muter, et donc à chaque fois, ça veut dire qu'il faut un nouveau vaccin. Il y a des endroits, par exemple à l'Institut Pasteur de Lille, où on est en train de faire des expérimentations pour un traitement. C'est autre chose que le vaccin, c'est un traitement. Juste, est-ce que vous savez que, en général, moi j'ai regardé, pour un vaccin, il faut au moins 9 à 10 années pour commercialiser un vaccin. Ben en moyenne, c'est 12, et les essais cliniques sont censés durer environ 3 ans.
Alors, vous ne vous ferez pas vacciner, vous ne voulez pas servir de boycott
Si la sûreté sanitaire du vaccin est assurée, je pense que c'est une bonne idée de se faire vacciner. Mais je comprends que dans ces circonstances, des gens puissent hésiter. Et je dis que le vaccin ne peut pas être la seule et unique solution. Par ailleurs, j'interroge aussi la manière dont ce vaccin va être distribué à travers le monde. La pandémie est mondiale. Et j'ai regardé ce qui s'est produit. Les pays riches, qui représentent 15% de la population mondiale, viennent de mettre la main sur 80% des stocks.
Emmanuel Macron,
le vaccin, s'il permet de solutionner la pandémie, doit être un bien commun de
Emmanuel
toute l'humanité.
Vacciner tout le monde. Emmanuel Macron ne cesse de faire des appels dans ce sens. Adrien Quatennens, pour le coup, vous dites il fait le job, pardonnez-moi l'expression.
Il a fait quoi, un post Facebook?
Non, il a fait des réunions, il a fait avec des membres... Je crois que ça ne vous convainc pas.
Vous dites la même chose que le président de la République,
Le président de la République, il a des moyens dont je ne dispose pas. Qui ne sont pas simplement des moyens de prise de position, de prise de parole.
Dites la même chose que vous.
Qu'ils se battent pour faire en sorte qu'effectivement le vaccin soit bien commun de toute l'humanité. Vacciner tout le monde à travers le monde, si on le faisait, ça coûterait 1% de ce que va coûter à l'économie les conséquences de la pandémie. Donc on devrait pouvoir le faire. Et puis moi j'insiste pour dire qu'en France, il nous faut un pôle public du médicament.
Pour avoir un médicament débarrassé
Des logiques uniquement d'hyperprofit des laboratoires pharmaceutiques. Un médicament au service de l'intérêt général. On ne produit plus en France. 80% de nos médicaments désormais sont importés. C'était l'effet exact inverse il y a encore 20 ans. Produire en France est une nécessité, y compris s'agissant des molécules indispensables dont nous avons manqué dans la première vague.
Vous dites un pôle public, mais ce sont quand même les entreprises privées qui ont trouvé les premières, les vaccins.
Mais bravo si elles y arrivent. Mais voyez bien en tout cas ce que ça provoque. C'est-à-dire que vous voyez les prix fixés par les vaccins, vous voyez les coûts engendrés, vous voyez les logiques économiques derrière. Vous avez vu comme moi, cette personne, je n'ai plus son nom, mais engagée dans Pfizer, qui au moment où le vaccin, on a annoncé qu'il y avait 90% d'efficacité, a revendu son portefeuille d'actions pour des millions. Vous savez, dans cette affaire, on a aussi les profiteurs de crise. Et moi, je veux que ce soit l'intérêt général. Nous voulons que ce soit l'intérêt général qui domine. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous proposons, ce pôle public du médicament.
Alors, vous voulez un pôle public. Alors, j'ai lu vos propositions attentivement. Vous avez fait un livret sur un confinement alternatif, sur des solutions de confinement alternatif. Et alors, je lis à propos du vaccin. Vous l'avez, vous le montrez à la télé. Mais en radio, on pourra aller le chercher sur Internet, regarder cette émission sur Internet. Dans vos propositions, vous mentionnez la Russie, qui a proposé à Emmanuel Macron, je vous cite, un partenariat permettant une production française d'un vaccin. Cette proposition, écrivez-vous, doit être sérieusement étudiée. Est-ce que ce n'est pas se mettre dans la main de Moscou? Est-ce que ce n'est pas dangereux de confier à des intérêts étrangers notre vaccination ou le choix de notre vaccin ou sa fabrication?
Ça mérite d'être discuté. s'il y a de ce côté-là quelque chose d'efficace qui peut être fait, et s'il peut y avoir un partenariat, vous savez, on n'a fait que ça, hein. Le vaccin, là, il n'est pas produit en France. Enfin, il n'a pas été créé en France.
Avec un précédent qui est celui de la Russie qui nous avait annoncé un vaccin dont on n'a pas vu pour aujourd'hui la concrétisation, et un président russe qui laissait entendre que tout cela était déjà acté.
Je crois qu'au vu de la gravité de la situation,
de méfiance, non ?
Je crois qu'au vu de la gravité de la situation et au vu du jeu économique de certaines entreprises par rapport à ce vaccin, je pense que toutes les options, même celles-ci, méritent d'être regardées. C'est le sens de ce que nous disons. Si la proposition des Russes est sur la table, étudions-la.
Et sur l'isolement des malades, est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que vous êtes favorable à un débat parlementaire sur l'isolement des malades du Covid ? C'est le président de la République, pour le coup, aussi.
Non, mais alors là, soyons clairs, l'isolement en tant que tel ne fait pas débat. Ce qui fait débat, c'est la contrainte.
La contrainte liée à l'isolement. L'isolement contraint, vous avez raison. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pour la raison que si les gens n'y consentent pas, de toute façon, ça va nous amener à ce qu'il y ait effectivement des ruptures de l'isolement. Par contre, nous sommes d'accord pour dire que la bonne politique, c'est tracer, isoler et soigner. Nous le disons et soigner. Et donc dans isoler, il faut créer les moyens pour l'isolement. Vous le savez, quand on s'isole dans sa famille, souvent on risque de contaminer tout le foyer. Et on nous avait dit qu'il y aurait des moyens considérables déployés pour ouvrir des chambres d'hôtel. Il faut que tout ça soit acceptable.
Ça a été le cas,
acceptable.
Mais les Français n'y
très
sont
peu,
pas allés.
Très peu. Et il y a eu très peu de moyens.
Il y a eu beaucoup d'hôtels à Paris, notamment, qui ont été réquisitionnés.
Benjamin Sportouche, je vous assure que sur tout le territoire, on ira voir.
Ne souhaitaient pas, justement, s'isoler.
Il y a très peu de moyens qui ont été mis pour ça. Très peu d'incitations. On n'a pas rendu les choses très confortables pour les gens qui avaient à s'y soumettre. Voilà. Mais évidemment que l'isolement fait partie de la solution. Pour le reste, nous avons travaillé à des alternatives au confinement parce que si l'épidémie dure, et le Conseil scientifique nous dit peut-être une troisième, peut-être une quatrième vague, on ne peut pas continuer à avoir comme ça le pays qui vit au rythme des confinements, des déconfinements ratés, des reconfinements incohérents avec les petits commerces. On ne peut pas. Donc il faut des alternatives. Pour l'essentiel et pour ne pas être trop long, on a travaillé sur deux concepts. Le concept de roulement, d'organisation de roulement au travail, à l'école, pour faire en sorte que les gens ne soient pas entassés pendant des heures au même endroit, et sur le renforcement des protocoles sanitaires.
Il y a des conséquences économiques à cette crise, justement, à propos de sa gestion par le gouvernement, Guillaume Roquette.
Oui, on voit que le chômage est assez contenu, l'augmentation est très limitée. On a aussi des chiffres plutôt rassurants sur le pouvoir d'achat des ménages. Est-ce que vous donnez ce gage au gouvernement que l'accompagnement social de cette crise a été plutôt réussi ?
Pardon, mais non. Il y a des choses qui ont été bien faites. Je pense par exemple au soutien qui a été accordé très tôt à certaines entreprises avec notamment les dispositifs comme le chômage partiel qu'il faut poursuivre. Mais je pense qu'il y a des choses, y compris en matière économique, qui posent véritablement question. Par exemple, la question des prêts garantis par l'État. Vous savez, ce sont des prêts. Donc par définition, il va falloir les rembourser. Et à l'échéance, en 2022, ce serait potentiellement quelques 132 milliards d'euros qui pourraient ne pas être remboursés. Donc il y a la question des dettes qui me paraît indispensable à traiter et essentielle. Je pense que nous devrions faire remonter ces dettes privées dans un fonds global et pouvoir les traiter comme telles. Sinon, ce sera des entreprises qui, de toute façon, vont simplement reculer pour mieux sauter.
C'est-à-dire vous me parlez de... L'entreprise n'aurait pas à rembourser ses prêts ?
Ça veut dire qu'il faudrait effectivement créer des fonds propres, parce que sinon, elles ne vont pas pouvoir le faire. De la même manière, Guillaume Roquette, sur la dette publique. Et vous voyez d'ailleurs, en Italie, ça vient d'être demandé. Le ministre italien a demandé à la Banque Centrale Européenne, en fin de semaine, d'agir sur le sujet. Nous n'arrêtons pas de dire que le niveau des dettes publiques, tel qu'il était déjà même avant la crise, mais tel qu'il va être renforcé par la crise, est insoutenable. Et que ce serait nous garantir des années d'austérité alors que nous avons besoin d'investir pour tout ce qu'il y a à faire, la planification écologique. Il faut donc que la Banque Centrale Européenne rachète directement les titres de dette aux États et les classe en dette perpétuelle. Et je termine en vous disant que, pardon, mais sur la pauvreté, les choses ne sont pas faites comme il faudrait. Vous avez l'air de dire que les choses sont plutôt contenues. Guillaume Roquette, nous atteignons bientôt 10 millions de pauvres en France, dans un pays qui est la sixième puissance économique du monde. Le Secours populaire nous explique que ce sont des chiffres jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des situations de quart-monde dans plein d'endroits du pays, y compris jusqu'à la faim, ce qui fait que nous devons collecter, et les militants collectent, des produits d'hygiène, des produits alimentaires pour
Amélie
venir
Carver.
En secours à l'association. Il faut une garantie dignité pour que personne ne vive sous le seuil de pauvreté dans ce pays.
Sur la réforme des retraites, la réforme doit être la priorité absolue de 2021, redit Bruno Le Maire. Alors on imagine que les chiffres avancés par le Conseil d'orientation des retraites cette semaine, encore 35,7 milliards d'euros de déficit et notamment aggravés par la pandémie, ne suffiront pas à vous convaincre. Ce serait une bonne chose d'en faire une priorité.
Et Amélie Carver, les déficits viennent de quelque part. Ils ne tombent pas du ciel, ils viennent de choix politiques. Quand vous décidez d'avoir pour seule politique budgétaire et économique de faire des exonérations de cotisations sociales, d'ailleurs sans contrepartie et des aides publiques sans contrepartie, vous creusez des déficits. Et donc après, vous arrivez derrière en disant « Au secours, il y a des déficits, il faut donc faire une réforme des retraites ». Moi, je vais vous dire une chose et je vais essayer de le résumer. La productivité, ces dernières décennies, a considérablement augmenté. Et depuis trop longtemps, les salariés ne tirent pas profit de cette augmentation de la productivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rapacité, une vampirisation du capital sur le travail humain qui seul produit de la richesse. Regardez en 10 ans ce qui s'est produit. En 10 ans, trois chiffres. Les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. Dans le même temps, le salaire minimum n'a augmenté que de 12% et les investissements productifs dont nous aurions tant besoin pour faire, par exemple, la transition écologique avaient diminué de 5%.
Donc vous promettez quoi à Bruno Le Maire qui annonce une priorité absolue pour cette réforme ? Lui promettez la lutte et le bras de fer à nouveau ?
Mais évidemment, s'il fallait déployer plus de force encore que nous l'avons fait lorsque ce texte nous a été présenté à l'Assemblée, nous le ferons. Car ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, et c'est évidemment le sujet des retraites, c'est d'une meilleure répartition de la richesse produite. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne relancera pas l'économie d'un pays avec pour seul objectif rembourser la dette et donc se serrer toujours la ceinture et travailler plus, ce qui va avoir pour conséquence d'aggraver le chômage. Il faut au contraire relancer l'activité de ce pays en ayant pour matrice la transition, la bifurcation de notre modèle pour la planification écologique. Et sur le travail, faire quelque chose d'efficace, travailler moins pour travailler mieux et travailler tous et lutter efficacement contre le chômage.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Alors, le gouvernement a négocié avec Amazon un report du Black Friday. Vous savez, ça a beaucoup, il y a beaucoup eu de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Certains internautes estiment qu'il y a du bon dans Amazon et pas que du mauvais. Est-ce que vous ne faites jamais vos achats sur Amazon ? Ou ça vous arrive ?
Je ne l'ai fait jamais. J'ai dû faire une fois un achat sur Amazon. Je cherchais une intégrale vinyle de Bob Marley que je ne trouvais nulle part. Je l'ai trouvé sur Amazon uniquement.
Et c'est vraiment quelque chose que vous refusez ?
Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas un modèle auquel j'adhère. Et ce modèle de l'hyper-accumulation, je n'y adhère pas. Et par ailleurs, il y a des plateformes françaises. Je le dis, les Français peuvent aller aussi sur Cdiscount, qui est une plateforme française par ailleurs. Mais moi, je crois plutôt à un modèle aussi qui est le nôtre, des petits commerces, dans lesquels d'ailleurs, on peut maintenant faire ses achats, et tant mieux.
Est-ce que vous, au pouvoir, vous ferez en sorte d'interdire des plateformes comme celle-ci, comme
Amazon ? En tout cas, c'est un modèle avec lequel, un modèle de développement avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Sans compter en plus, je ne l'ai pas dit, sur la question fiscale. Amazon paye très peu d'impôts. Et tout ça profite immensément à quelques-uns. Regardez Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Sa fortune est estimée.
Il crée beaucoup d'emplois, notamment dans votre département, dans le Nord.
Il crée beaucoup d'emplois. Vous voyez, y compris les conditions de travail de ces gens, Benjamin Sportouche. Franchement, ça mérite d'être regardé. Créer de l'emploi, oui, mais pas à n'importe quel prix. Payer ses impôts en France. Et la fortune de Jeff Bezos, c'est 200 milliards d'euros de fortune personnelle.
Amélie Carouère, avant d'une autre question.
Vous dites qu'il faut boycotter Amazon pour Noël. Vous appelez les Français à faire un Noël sans Amazon. Le Black Friday, c'est un.
Écoutez, bon, l'appel au boycott, ça. Moi, je pense que je
c'est pas votre truc. Hein.
Je fais confiance aux Français. Moi, je considère qu'il nous faut sur Amazon une taxe exceptionnelle sur Amazon qui viendrait alimenter un fonds d'aide et de soutien, notamment aux petits commerces. Si on peut se passer d'Amazon, si on fait ses courses sur une plateforme, aller plutôt sur des plateformes françaises. Ouais. Et si on peut plutôt favoriser le petit commerce qui, en plus, compte tenu de ce qui vient de se passer avec ce confinement incohérent, mérite bien d'être soutenu, allez-y.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, vendredi, il y a eu une altercation sur un plateau de télévision entre la maire, les Républicains de Taverny, Florence Portelli, et votre collègue Manon Aubry. Manon Aubry qui a estimé que sale macaroni n'est pas une insulte raciste. Elle a rétro-pédalé depuis sur Twitter, mais sans s'excuser, et ça n'a pas suffi à stopper les critiques des internautes. Est-ce qu'elle aurait dû s'excuser, d'après vous ?
Écoutez, j'ai vu qu'elle avait rétropédalé, qu'elle avait fait un tweet de clarification pour dire qu'en effet, c'était une insulte raciste. Je pense qu'y compris, il y a des événements historiques qui nous restent en tête. Je pense au massacre des Italiens à Aigues-Mortes. Tout ça, évidemment, mérite d'être débattu. En tout cas, j'ai vu la séquence vidéo et Manon Aubry
a
clarifié.
Est-ce qu'elle a eu tort de faire une hiérarchie dans le racisme, comme elle l'a fait ?
Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'elle ait voulu faire. Mais en tout cas, elle a dit, en effet, aujourd'hui, et heureusement pour eux, je ne pense pas que les Italiens de ce pays font l'objet, par exemple, de contrôles abusifs aux faciès, etc., etc. Pour autant, oui, l'insulte que vous avez citée est une insulte raciste, et d'ailleurs, Manon Aubry s'en est expliqué.
Autre question, Marie-Pierre.
Oui, cette semaine, on a pris connaissance des patrimoines des ministres qui ont été dévoilés par la haute autorité qui est en charge de cette vérification, et le patrimoine du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a plusieurs appartements, a choqué certains internautes. Est-ce que vous estimez aussi, enfin voilà, ça vous a choqué, ou est-ce que vous dites non, c'est le fruit de son travail à l'époque où il était avocat ?
J'ai pas d'appréciation à avoir sur le patrimoine du ministre et garde des Sceaux. À partir du moment où il déclare effectivement son patrimoine, je préfère une déclaration complète que certaines fausses déclarations ou manquements aux déclarations que nous avons eu par le passé à connaître. Je pense par exemple au moment de la réforme des retraites.
Toute dernière question sur 2022. Jean-Luc Mélenchon, hier, dans son meeting, encore une fois virtuel, disait que le pays sera dévasté en 2022. En même temps, on voit que les sondages sont plutôt favorables actuellement pour l'exécutif, avec près de entre 40 et 48% d'adhésion à Emmanuel Macron. Est-ce que cela, ce genre de propos, n'est pas excessif dans la voix d'un leader politique?
Je ne crois pas. Tout le monde voit que la situation économique se dégrade. Tout le monde voit que la pauvreté dans ce pays se dégrade. Tout le monde voit que la question de la répartition des richesses se dégrade. Tout le monde voit que la question écologique n'est pas prise en charge comme il le faudrait. Voyez par exemple les citoyens de la Convention citoyenne qui nourrissent maintenant beaucoup de rancœur à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc disons les choses. En 2022, le candidat, c'est le programme. Il faut passer à la 6ème République, il faut partager les richesses, il faut faire la bifurcation écologique. Et moi, je pense que le bon candidat pour le faire, et avec toutes les qualités, y compris nos capacités d'innovation, comme vous l'avez vu, parce qu'on va faire campagne, on a besoin de cette campagne de temps long, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à aller signer sur la plateforme noussommespour.fr.
Et Jean-Luc Mélenchon est invité sur ce plateau pour en parler. Merci à vous, Adrien Quatennens, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Bon courage, très belle semaine, à la semaine prochaine.